France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cambodge, il était encore une fois, car le seul nom d'Angkor projette dans nos esprits un monde dans lequel la richesse des constructions est aussi dense que la forêt qui les accueille. Même si la forêt semble impénétrable, il n'en va pas de même pour l'histoire qui, elle, est étudiée, travaillée sans cesse, encore et encore, en Pique-Mère, quelle route emprunter pour se rendre à Angkor.
Vous voilà au Cambodge.
Oh mon Dieu, nous sommes au Cambodge.
Excusez-nous, monsieur le magicien, nous ne pouvons pas nous empêcher de frissonner.
D'avoir peur.
Car autour de nous, sous une énorme lune rouge, qui éclaire comme le soleil...
Nous ne voyons que des arbres.
Des arbres qui sont comme des géants à la peau bleue.
Tout un peuple de géants qui se tiennent par la main et dont les têtes majestueuses aux longues chevelures sont couronnées de fleurs et de rossignols.
Les arbres qui se meuvent dans la jungle avec mille et mille pieds de lianes.
Monsieur le magicien... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prendre une autre route pour aller en pèlerinage à Angkor ?
Tous les guides du monde décrivent qu'il existe une bonne route.
Bonne, excellente et confortable route qui, de Phnom Penh, la capitale, en quelques heures d'auto...
nous dépose sans péril à Angkor.
Que ceux qui ont peur de la jungle et des fauves prennent la route commode. Mais nous vous proposons la route de la poésie, celle que prendront toujours les amants de la beauté et de l'aventure quand ils iront en pèlerinage à Angkor.
Une évocation ici poétique, et c'est peu de le dire, d'Angkor, avec en 1948 la volonté de prendre une route qui nous conduit vers la poésie aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour réfléchir à cette histoire de l'Empire Khmer ou du Royaume Khmer. On verra, on va en discuter. Hedwige Mulzer Onaktan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, docteur en langues et civilisations orientales. Vous êtes l'autrice d'Angkor, le quotidien du roi, publié aux belles lettres. Et c'est dans l'évocation qu'on vient d'entendre ici, la poésie qui prime. Première sensation quand on arrive là-bas, c'est quoi ? Aujourd'hui, hein, je parle de l'Angkor d'aujourd'hui.
Oui, moi je l'ai découvert il y a déjà une vingtaine d'années, donc c'était juste après, au moment où le pays rouvrait ses frontières et la végétation avait un peu repris le dessus. Donc je me suis peut-être retrouvée dans un contexte qu'avaient connu les premiers découvreurs. Aujourd'hui, c'est un peu différent, tout a été dégagé en partie et il y a beaucoup de monde. À l'époque, il n'y avait personne, on était les seuls touristes. Donc, mais c'est quand même une impression de fascination, d'être projeté dans un monde qui nous est totalement inconnu et qui nous attire, en fait.
Ouais, et puis le monde totalement inconnu, vous avez raison de le dire, parce que la non-compréhension de l'histoire, ça ajoute au mystère. Sauf que historiens sont là pour nous aider à saisir l'histoire. Thierry Zéphir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au musée Guimet à Paris, chargé des collections de la section Mondes Himalayens, avec ici l'évocation d'Angkor. Quand on parle d'Angkor, de quoi parle-t-on ? J'ai utilisé les expressions Empire Khmer, Royaume Khmer. De quoi parle-t-on ?
Ben, on parle avant tout d'un site archéologique déjà. On parle d'une ville qui a été capitale et même de villes multiples qui ont été les centres du pouvoir pendant quelques siècles. Et puis on parle de beauté, on parle de grandeur, on parle de mystère. Ça fait toujours frémir les foules, mais enfin il y a un petit côté effectivement mystérieux quand on débarque encore, si l'on peut dire. Donc on parle de beaucoup de choses et d'une civilisation qui a été majeure en Asie du Sud-Est.
D'ailleurs, si on peut donner des bornes chronologiques, logique pour savoir à partir de quel moment tout cela a un sens, mais on le sait bien, il n'y a pas une date de fondation précise. C'est un long processus, Thierry Zéphir.
Oui, c'est un long processus. On a traditionnellement dans nos ouvrages de vulgarisation des dates bornes. Donc on dit début de l'époque angkorienne 802, qui est la date de la cérémonie d'intronisation d'un roi réputé être le fondateur d'une lignée royale angkorienne. Et puis 1431, la chute d'Angkor. Alors il faut mettre beaucoup de guillemets à ce terme de chute. En tout cas, cette date est retenue comme étant celle où des armées d'un royaume voisin, Ayutthaya, ont pénétré encore, ont quelque peu mis la ville à sac. Et dans ces bornes chronologiques, évidemment, il faut une grande souplesse parce que il y a tout un processus de mise en place de l'urbanisme khmer, de la royauté elle-même qui a débuté bien avant et qui s'est perpétué après. Dans le fond, la période la plus pauvre au regard de la connaissance qu'en a le grand public, c'est ce qui a suivi encore. Et aujourd'hui, on tend vraiment à approfondir cette période, à mieux la connaître, à mieux l'appréhender, à mieux la valoriser. Et c'est effectivement une période qui est très riche.
Eh oui, pour les repères chronologiques, mais c'est juste pour donner des éléments de comparaison, même si comparaison n'a pas grand sens ici. C'est notre Moyen-Âge à nous, hein, cette période-là, pour cette période d'encore.
Oui, alors le terme de Moyen-Âge, c'est décalqué en fait sur des réalités historiques d'Asie du Sud-Est, si vous voulez, un système de compute temporelle qui est proprement européen. Donc on ne parle pas, nous, vraiment de Moyen-Âge ou d'Antiquité ou d'âge classique. En fait, le nom même d'encore a servi à qualifier les grandes articulations historiques qui ont été déterminées par les historiens et qui sont aujourd'hui un petit peu reconnus par tous, entre une période d'apogée économique, politique, culturelle aussi, et puis les périodes qui l'encadrent, donc une période entre guillemets formative, mais qui était déjà très très développée, et une période qui succède et qui est effectivement de toutes la moins connue.
Oui. On peut peut-être ajouter aussi que encore, c'est un nom qui n'était pas connu à l'époque encorienne. C'est un mot qui apparaît de manière assez tardive, que les sites à l'époque, les capitales avaient des noms qu'on n'a pas tous retrouvés, et que l'idée générale pour les gens qui connaissent un peu ou pas du tout, encore se résume souvent à Angkor Wat ou à une ville qui s'appellerait encore. En fait, il faut bien comprendre dès le départ, sinon on rate complètement tout le processus d'évolution, que encore, c'est une région. Donc, d'après les travaux récents, Christophe en parlera, qui ont été menés ces dernières années avec des outils technologiques performants, il a délimité 1000 km² de superficie, de développement urbain. Et puis, au classement de l'UNESCO, c'est 400 km². Donc, c'est une région un peu comme la Touraine avec les châteaux de la Loire. Et dans cette région, il y a eu des capitales qui se sont créées à différents endroits.
Le Christophe que vous évoquez, c'est Christophe Potier qui est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Bonjour.
Oui, bonjour.
On entend derrière vous comme des cigales. Où vous trouvez-vous ?
Oui, alors je ne suis pas encore. J'aimerais bien, je devrais d'ailleurs y être prochainement, mais non, je suis actuellement à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. Mais c'est l'heure effectivement des cigales, donc je suis désolé pour la qualité du son.
Ah non, bah écoutez, c'est un véritable plaisir de vous avoir à l'autre bout du monde. Vous êtes architecte, archéologue, maître de conférences à l'École française d'Extrême-Orient avec... tout ce que nous avons pu évoquer ici, c'est vrai qu'on a parlé de chronologie, on peut parler de géographie et dire que c'est beaucoup plus grand qu'un simple sanctuaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Oui, effectivement, encore ne se limite pas, comme Edwige et Thierry l'ont présenté, à un monument aussi majestueux soit-il, et notamment le temple d'Angkor Wat. Mais pour ça, il faut peut-être replacer... en tout cas mentionner le nombre assez réduit finalement de sources dont nous disposons pour saisir l'histoire et le fait encorien. En fait, les sources elles-mêmes sont très limitées. Il y a bien sûr les inscriptions gravées dans la pierre essentiellement, parfois dans certains métaux précieux, mais donc l'épigraphie qui a été un élément de base pour reconstruire la chronologie des souverains, des monuments principaux, etc. Mais pour l'ensemble de la civilisation khmère, il faut voir que ce corpus est très limité. On a à peine 1500 inscriptions sur l'empire khmer. Enfin, empire, on en reviendra tout à l'heure. Mais c'est très peu par rapport à n'importe quelle autre civilisation romaine ou grecque ou quoi que ce soit. Donc déjà, en plus, ces inscriptions sont très souvent fragmentaires, difficilement lisibles. Elles ont été gravées dans la pierre, dans des contextes de temple. Elles parlent essentiellement de divinités, de souverains, de fondations religieuses, et laissent tout un pan de la société très difficile à percevoir à travers ces textes. Une autre source, c'est bien sûr les sources extérieures, notamment des sources chinoises, qui commencent dès les premiers siècles de notre ère, mais qui ici encore sont quand même très lacunaires, très parfois aussi un peu schématiques, dont on a pu aussi parfois prendre une certaine distance sur l'interprétation qui doit en être fait. Et puis bien sûr, il restait avant tout, et ça a été le terrain de jeu des archéologues et des architectes depuis la redécouverte d'Angkor par le monde occidental et par notamment le protectorat français qui s'y établit au XIXe siècle, ça a été les vestiges monumentaux, les temples notamment, les temples les plus importants qui étaient construits en pierre et en briques, et puis la statuaire. Et en fait, c'est à partir de ces donc, sources très limitées qu'on a reconstruit en fait tout cet écheveau et cette chronologie angkorienne en retrouvant dans ces textes, dans ces vestiges, les éléments majeurs de ce qui fait maintenant cette histoire qu'on raconte dans les guides, ponctuée de grands temples tels qu'Angkor Wat, le Bayonne, etc., mais aussi de grands souverains qui d'ailleurs ont été numérotés au fur et à mesure qu'on les retrouvait dans les inscriptions, ont été numérotés comme nos rois français, Louis Ier, Louis II, ou en tout cas ça a été Jaharman I, Jaharman II, Jaharman VII, etc. Donc tout ça, ça a été une histoire qui a été reconstituée sur certains vestiges très limités. Et bien entendu, le développement de nouvelles approches depuis les 20-30 dernières années, notamment dans le domaine archéologique, avec les outils archéométriques que nous permettent désormais certaines techniques, a permis de renouveler complètement cette perception et d'élargir notamment notre vision au-delà des vestiges monumentaux qui étaient l'élément phare de ce mythe d'une Atlantide asiatique qu'auraient redécouvert des explorateurs européens à la fin du 19e.
Mais parce qu'il y a vraiment de ça, c'est cette redécouverte qui nous fascine et ces temples, et c'est très juste ce que disait Christophe Potier, toute la question des sources, elle est là. On peut imaginer d'ailleurs, parce que c'est un tantinet humide comme région, que beaucoup de sources ont disparu, notamment tout ce qui sert de narration à ces histoires-là.
Oui. D'ailleurs, on sait à travers certaines inscriptions dont Christophe parlait que les rois, certains rois, avaient des chroniqueurs et qui étaient enregistrés de manière assez régulière tous leurs actes, peut-être leurs décisions politiques, mais que malheureusement, tout ça a été fait sur des matériaux périssables qui ont disparu, soit à cause du climat, des insectes ou dans les guerres et les incendies. Et c'est tout à fait regrettable.
Ah bah oui, j'imagine, Thierry Zéphir. C'est vrai que nous avons une vision parcellaire, c'est souvent le cas en histoire, mais ici, parcellaire et monumentale.
Oui, parcellaire, et puis qui malgré tout s'enrichit très régulièrement. Des inscriptions nouvelles apparaissent, qui apportent des points de vue originaux, ou qui complètent des données, ou qui rectifient d'ailleurs des données anciennes. Il se trouve qu'on ouvre cette semaine une exposition au Musée Guimet, où figure une inscription relativement récemment découverte, qui a trouvé sa voie dans une collection privée française, et qui permet de mieux cerner justement le règne d'un grand souverain du XIIe siècle, celui qui a construit le temple d'Angkor Wat, et de son successeur immédiat. C'est un moment très important dans l'histoire d'Angkor, en tout cas dans l'histoire Khmer, parce que c'est vraiment un moment où les élites vont se tourner vers la religion bouddhique, le grand véhicule, et donner une couleur originale et spécifique à l'art de la fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, et à l'histoire du Cambodge en même temps. Donc on est vraiment dans un processus d'apprentissage qui ne s'arrêtera pas. Et puis au Cambodge, des fouilles, des recherches archéologiques, des découvertes de hasard apportent assez constamment de nouveaux éléments. Donc c'est une histoire qui n'est pas totalement connue et qui est un peu en devenir.
Oui, c'est une histoire en devenir, et puis il y a les travaux des uns des autres qui permettent d'y voir plus clair. Encore le quotidien du roi Evige Mulzer Onagunt. Onakton, c'est quoi cette histoire-là, ce quotidien du roi? Comment on reconstruit le quotidien du roi avec toutes ces sources que nous avons? Nous l'avons dit, beaucoup de sources disparues sur place, mais sachant qu'il y a des sources extérieures aussi qui ont pu observer ce qui s'y passait.
Oui, vous faites allusion aux sources chinoises, évidemment.
Mais évidemment, vous lisez dans mes pensées.
Et alors, les sources chinoises, on les connaît à partir du IIIe siècle. Elles sont intéressantes pour, on en a un certain nombre pour la période pré-angkorienne. Après, pour la période angkorienne, on en a assez peu. Et puis, il y a le fameux Cheutakwan qui vient avec une ambassade à Angkor à la fin du XIIIe et qui nous laisse un récit assez détaillé, très thématique, où tout n'est pas à conserver d'ailleurs, parce que il parle de beaucoup de choses. Il veut présenter une vision totale de d'Encore, puisqu'il est Encore, mais il s'étend aussi plus largement au reste du pays, à ses ressources naturelles, à son commerce. Il aborde différents aspects, mais parfois il n'a pas la bonne information, ou il voit les choses avec son regard de chinois et il interprète mal ou il comprend de travers. Donc, toutes ces sources sont très utiles, mais pour reconstituer le quotidien du roi, il m'a fallu me plonger dans toutes ces sources d'informations et les croiser. Bien évidemment, j'ai étudié ligne par ligne les inscriptions qui étaient déjà toutes traduites, et dans ces inscriptions qui ne parlent évidemment pas du roi, je vais vous parler un petit peu du pouvoir royal. Le roi au Cambodge n'est pas un dieu, contrairement à d'autres pays, il n'est pas divinisé, mais il est l'autorité suprême. Dans la tradition indienne, il se pose en monarque universel. C'est quelqu'un qui a un pouvoir discrétionnaire, mais il ne prend des décisions que pendant son règne. Il n'y a pas de jurisprudence royale, en quelque sorte. Donc, il a un travail énorme à faire quand il est désigné comme souverain, quand il est couronné, puisque, par exemple, toutes les fonctions, tous les titres doivent être reconduits, ou il doit renommer d'autres personnes qui lui sont plus favorables. Et il a donc fallu, pour trouver toutes ces petites informations, aussi les informations du quotidien, matériel, reprendre toutes ces inscriptions qui, elles, sont essentiellement consacrées aux dieux des temples, puisque ces inscriptions qui accompagnent la construction des monuments religieux, et sortir de leur contexte des mots qui désignaient des pots, du matériel, des onguents, des huiles, de la nourriture, des dons, qu'est-ce qu'on donnait au temple. On peut penser que ce qui était donné aux dieux pouvait aussi figurer au palais royal. Et ça a été vraiment un travail de fourmi qui m'a pris beaucoup d'années pour recouper tout ça en utilisant les sources chinoises, mais aussi les sources indiennes, parce que on sait que la civilisation angkorienne a beaucoup emprunté au monde indien dans tous ses domaines, et essayer de redonner quelque chose d'assez vivant sur ce qu'était la vie du roi, son quotidien, son entourage, ce qu'on pouvait trouver au palais, sans jamais inventer ou imaginer.
Ben oui, le travail de l'historienne, bien sûr, direction le palais.
Le palais, les demeures officielles et les maisons nobles sont tous orientés vers l'est. Le palais est au nord de la tour d'or et du pont d'or. Les piles du pont sont énormes. Des bouddhas y sont sculptés et peints. Le corps des bâtiments du palais est magnifique. Les longues vérandas, les corridors couverts sont hardis et irréguliers, sans grande symétrie. La salle du conseil a des châssis de fenêtres en or. À droite et à gauche sont des colonnes carrées, portant de 40 à 50 miroirs rangés sur les côtés des fenêtres. En dessous sont représentés des éléphants. J'ai entendu dire qu'à l'intérieur du palais, il y avait beaucoup d'endroits merveilleux, mais les défenses sont très sévères et il est impossible d'y pénétrer. Dans le palais, il y a une tour d'or au sommet de laquelle couche le roi. Tous les indigènes prétendent que dans la tour, il y a l'âme d'un serpent à 9 têtes, maître du sol de tout le royaume.
Raphaël Halloum qui nous lisait cet extrait de Chu Dagwan.
Chu Dagwan, oui.
Vous le dites mieux que moi. Avec ici vraiment l'idée du palais. Mais quand nous réfléchissons à Angkor, que voit-on de ce palais? Qu'est-ce qu'on voit à Angkor? On voit beaucoup de temples en fait, Thierry Zéphir.
Oui, on voit essentiellement la structure religieuse du site, en tout cas ses éléments principaux. Le palais royal lui-même, on sait où il se trouve, on le connaît physiquement, et il est entouré, enfin c'est un ensemble de bâtiments qui a disparu aujourd'hui bien sûr, mais qui était entouré par une enceinte en dur, avec des portes d'accès dans des cours différentes. Donc on a une assez bonne connaissance de l'emplacement du palais royal. Il y en a d'ailleurs eu plusieurs sur le site d'Angkor, puisqu'il y a eu plusieurs capitale. Donc le palais s'est déplacé en même temps que le centre sacré des villes d'Angkor. Et ce qui est connu aussi par des fouilles archéologiques, ce sont certains dispositifs associés à ce palais. Et particulièrement, ça c'est quelque chose d'assez récent, alors c'est pas dans le palais lui-même, mais c'est au nord immédiat du palais, une fonderie pour la fabrication, la réalisation des grandes commandes royales, parce qu'on a bien sûr la connaissance de ce site d'Angkor dans sa minéralité. Donc dans les temples en pierre qui sont demeurés, avec parfois des éléments de briques qui sont un petit peu plus dégradés mais qui sont toujours présents, et tout ce qui était dans d'autres matériaux, le bois par exemple, et puis aussi les métaux, est moins connu. Mais ça a existé. Et il y avait une forme de centralisation des activités édilitaires à Angkor qui était très étroitement associée au palais. Donc cette fonderie récemment découverte est un de ces éléments. Et en entendant le texte qui était lu précédemment, ça me fait penser à une sorte d'équivalence. C'est un témoignage de Chinois, donc d'un étranger au monde d'Angkor, qui parle d'un lieu qu'il découvre, d'une civilisation qu'il connaissait peut-être, ou d'une société qu'il connaissait, parce que évidemment la Chine et l'Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge, ont toujours eu des rapports assez étroits. Mais enfin, il décrit le palais de façon assez fantasmée. Et ça m'évoque un phénomène qui s'est produit en Inde au 3e siècle avant notre ère, où un ambassadeur, un extérieur à l'Inde de cette époque, décrit aussi le palais, dans des termes hyperboliques, en fait dithyrambiques extraordinaires. Donc les témoignages extérieurs, notamment ceux des Chinois, il faut les évaluer à l'aune de ce que eux-mêmes voient, de ce qu'il leur est donné à voir, et aussi à l'aune de la manière dont ils perçoivent les choses. Un Chinois est absolument différent d'un Khmer, sociétalement, culturellement, et il y a donc une nécessaire adaptation, Edwige en parlait précédemment. Il faut vraiment faire la part des choses, avoir un recul, un regard critique sur les informations dont on dispose. Et c'est un peu la même chose avec les inscriptions. Dans le fond, les inscriptions, elles parlent d'un domaine particulier qui est le sacré, puisque c'est toujours associé à des temples. Mais ce sacré, est-ce qu'on ne le met pas un petit peu trop en avant en étudiant et en se fondant exclusivement sur les inscriptions? Donc ça a été tout le travail des épigraphistes, des historiens, de l'École française d'Extrême-Orient, tous les chercheurs qui se sont penchés sur ces questions, de faire la part justement de ce qui pouvait être une réalité qu'on cherche à reconstituer et de ce dont témoignent les vestiges dont on dispose.
Oui, se méfier de notre propre regard, parce que Christophe Potier, une fois qu'on a dit qu'il y a des temples et un palais, vous allez nous répondre oui, mais vous n'avez pas compris ce qu'était encore ce monde Khmer, parce que ce n'est pas que ça. Que nous apprend l'archéologie aujourd'hui avec des nouvelles techniques qui permettent d'explorer beaucoup mieux la forêt?
Ça nous montre déjà qu'il n'y a pas que les temples. Et ce que l'on verra, ce qu'un visiteur, un touriste viendra voir à Angkor, c'est bien entendu des vestiges, des temples monumentaux, mais ce n'est vraiment que le squelette minéral de cette civilisation qui, on l'a vu, donc s'étend sur plusieurs siècles, quasiment 1000 ans, hein, puisque on a vu que ça s'étend au-delà, en amont de 802. Hein, on peut même penser d'ailleurs qu'Angkor est déjà un site de capitale dès le 6e siècle, fin du 6e siècle, et qu'il a perduré après en partie en tant que haut lieu de pèlerinage bouddhique jusqu'après l'abandon du site par la royauté khmer. Mais en dehors de cet aspect monumental, dont il ne reste finalement que les temples construits en dur, en pierre et en briques, et encore il ne reste que les monuments principaux, puisque des centaines de sanctuaires, de temples, de villages étaient construits aussi en matériaux périssables et ont quasiment totalement disparu, de même que tout l'habitat. Thierry mentionnait le palais, dont il ne reste plus que quelques bases, alors qu'ils sont effectivement, pour certaines, assez monumentales et qui nous donnent quand même une idée de la majesté des édifices qui étaient construits dans le palais royal, notamment dans Khor Tom, dont Thierry parlait. Mais au-delà, c'est valable pour tous les habitats, avec des matériaux plus modestes, des sections de bois, de palme, de chaume, de bambou, etc., Et tout cela, bien entendu, en milieu tropical, soumis au mousson, avec des sols qui sont en plus relativement acides et qui sont donc peu propices à la préservation des composants organiques, a amené à la disparition quasi complète de tout cela. Ce qui fait que quand on fouille maintenant de l'habitat, et ça c'est quelque chose qui finalement est assez récent, hein, on a commencé finalement en archéologie à s'intéresser à l'habitat il y a, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années, à peine. Donc on a encore très peu d'éléments. Hein. Par exemple, je crois qu'on ne connaît pour l'instant qu'une seule fouille de maison à Encore, alors que le site est immense. Eh bien, en dehors de ces éléments-là, que l'on fouille avec des techniques dignes de la préhistoire, finalement, on a par contre aussi, et fort heureusement, les traces de l'impact topographique que les Khmers ont laissé sur leur territoire. Et donc ça, c'est aussi lié au milieu hein, dans lequel Encore s'établit. C'est une plaine alluvionnaire très plate, finalement, et où ce régime climatique de saison des pluies, où on baigne dans l'eau pendant 6 mois de l'année et 6 mois de l'année très sec, ou à l'inverse, il s'agit de conserver un peu d'eau, eh bien, a amené les Khmers dès les premières périodes, et voire même avant d'ailleurs les périodes encoriennes, hein, ça on l'a déjà dès les premiers établissements de l'âge du bronze et de l'âge du fer, il y a environ 3000-3500 ans, à aménager les habitats, et au-delà, y compris les sanctuaires, sur des terre-pleins artificiels. Et donc, Encore, vous y verrez des temples monumentaux particulièrement spectaculaires, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, tous ces aménagements reposent sur des travaux de terrassement gigantesques qui se sont accumulés au fil des siècles et qui ont finalement artificialisé le territoire sur une très vaste période. Donc on reconnaît des terre-pleins de temples, qui sont généralement ceints d'une doue avec des chaussées axiales majoritairement orientées à l'est. On y retrouve des centaines, voire des milliers d'étangs, de bassins, autour duquel, bien entendu, on suspecte que se concentrait l'habitat. Mais on a aussi toute une série de digues, de canaux, de grands étangs et donc notamment de grands bassins tels les barailles qui sont des genres d'étangs artificiels de forme géométrique qui atteignent parfois des dimensions vraiment monumentales. Le plus grand a Encore fait 8 km par 2, donc 16 km carrés avec des digues monumentales de plus de 10 mètres de haut et 150 mètres de large à la base. Donc c'est toute cette anthropisation du terroir, du territoire, sur une très vaste surface qui caractérise finalement l'accumulation de l'investissement humain dans cette région d'Encore qui sera donc capitale des rois Khmers pendant presque 1000 ans.
D'un archéologue à l'autre.
Les premiers rois d'Encore, dès 870, 80, 90, ont déjà élevé des temples-montagnes tout à fait importants. Temples-montagnes, pourquoi ? Dès leurs origines, les Khmers ont conçu que les dieux habitaient sur les montagnes. Et c'est quelque chose d'assez compréhensible quand on connaît ce pays infiniment plat, infiniment monotone, où l'eau peut-être l'emporte sur la terre, et où une montagne, fût-ce une modeste colline de 60 mètres, jaillit littéralement sur l'horizon comme un Everest ou un Mont Ventoux. Et lorsqu'ils ont bâti sur les quelques collines disponibles à Encore, chacune d'entre elles en effet couronnée d'un temple, ils se sont trouvés, si j'ose dire, à court de collines. Et ils ont inventé cette formule tout à fait extraordinaire qui est le temple-montagne, qui est purement et simplement de réaliser en pierre et en terre une montagne artificielle.
Bernard-Philippe Grelier, archéologue, qui en 1968 évoquait ces temples-montagnes. Ben oui, quand on n'a pas assez de montagnes ou de collines, on en fabrique. Christophe Potier, passionnant d'étudier Encore à travers ces temps, parce que il y a cet aspect esthétique et majestueux, bien sûr, mais ce regard sur le fonctionnement d'une société nous oblige à quitter ces zones de temples et de palais pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on l'entend bien, vous l'avez dit, énormément de terrassement, énormément de travail qui nous laisse imaginer une structure beaucoup plus vaste. Comment ça fonctionne en fait ce royaume ou cet empire Khmer ?
C'était intéressant de rebondir sur ce sujet après avoir entendu Grolier, puisqu'il est un des premiers à avoir développé justement des recherches sur la région d'Ancore, sur le territoire ancorien. Alors, ce qui l'a amené à développer d'ailleurs des théories, et notamment une théorie qui est devenue fameuse, de la cité hydraulique, qui associait l'essor d'Ancore à sa capacité de développer un immense réseau hydraulique qui aurait non seulement permis de soutenir une population croissante, mais aussi, dans ses dires, une riziculture de plus en plus intensive. Alors, cette théorie a été beaucoup discuté depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années. C'est toujours d'ailleurs sujet à discussion. Et on revient très largement maintenant sur ce côté des riziculture intensive. Ceci étant, le développement justement des recherches, et notamment sur la cartographie des vestiges archéologiques qui s'étendent dans la région d'Ancore, avec la télédétection qui avait commencé Bernard-Philippe Grolier avant la guerre, hein, donc à partir des années 50 et 60, puis depuis avec des nouveaux outils, y compris des photographies aériennes très classiques, mais qui ont bénéficié de la déforestation massive qui a touché la région d'Ancore avec la guerre et depuis la guerre, couplé avec des éléments, des nouvelles images satellitaires. Et puis, depuis maintenant une douzaine d'années, date à laquelle on a introduit la technologie du LIDAR dans la recherche à Ancore, tout cela nous a permis donc d'affiner et d'élargir notre vision des sites archéologiques, de l'élargir à des terre-pleins beaucoup plus modestes auxquels on avait vraiment peu prêté attention jusqu'alors, et ce qui nous permet dorénavant de rentrer un peu plus dans le tissu urbain ou rural, suivant qu'on l'appelle, parce que justement c'est aussi cette vision de l'urbanité d'Ancore qui est en jeu, hein. Il ne faut pas imaginer une ville d'Ancore comme une cité médiévale européenne très dense, où on vit les uns sur les autres, mais au contraire sur quelque chose qui s'étend sur un assez vaste territoire, couvert de végétation, avec des densités finalement relativement modestes, mais sur une très vaste zone. Eh bien, ces nouveaux éléments, notamment le LIDAR, nous a permis d'affiner cette connaissance, ces densités d'occupation, et de commencer à pouvoir proposer des visions paléodémographiques sur l'évolution d'Ancore. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en cours et qui se développe durant ces 10 dernières années.
Le LIDAR, c'est cette technique absolument sensationnelle, hein, qui permet de voir ce qu'il y a là, dessous et sous les arbres, notamment sous la forêt, avec Thierry Zéphir, toute cette évocation d'Ancore, qui n'est pas une ville au sens où nous l'entendons, la concentration, qui est une ville qui s'étend, c'est pas exactement les mêmes fonctionnements que chez nous, avec des concentrations d'habitants, par contre, qui nous laissent rêveurs, hein, pour la période dont nous parlons.
Oui, alors avant de vous répondre, juste une petite... Je souhaiterais revenir sur la question des temples-montagnes, parce que c'est vrai qu'au Cambodge, et encore tout particulièrement, il y a ces fameux temples sur pyramide, à gradins, très géométriques, c'est-à-dire un ensemble d'une dizaine de monuments sur le site d'Angkor, pas plus, et des monuments qui sont tous des fondations royales. Il y a derrière tout ça aussi une valeur symbolique très importante. Le temple, c'est une montagne, par définition, c'est beaucoup d'autres choses, c'est le corps glorieux du dieu, c'est tout ce qu'on veut, et c'est en tout cas la demeure du dieu dans le monde des hommes, d'où il exerce ses pouvoirs protecteurs et bienveillants. Et ce qui est très original et très remarquable au Cambodge, c'est que les Khmers ont ajouté du symbolisme au symbolisme. Ils ont surenchéri sur une approche conceptuelle du monument qui était celle de l'Inde, et qu'ils ont revalorisé en édifiant effectivement les monuments sur des pyramides artificielles. Donc il y a quelque chose, et c'est la même chose pour les grands bassins, les grandes retenues d'eau, plutôt les châteaux d'eau que sont les barrailles. Bien sûr, ils ont pu avoir une fonction en partie pratiques, mais ce sont surtout des images symboliques de l'océan cosmique qui fait partie intégrante de la cosmographie divine. Donc les rois khmers reproduisaient d'une certaine manière dans leur domaine terrestre, dans la ville qui était la leur, des dispositifs qui existaient aussi et qui étaient évoqués très certainement dans des manuscrits ou dans des traités normatifs dans les sphères célestes. Donc on a une espèce d'équivalence qui n'est pas superposition disons réappropriation complète, mais il y a quand même une équivalence entre le monde des dieux et le monde des hommes, avec le dieu protecteur du Cambodge qui protège la création, le cosmos, et sur Terre, au Cambodge même, le roi qui protège et qui valorise ses états pour le bénéfice de son peuple.
Et puis, à propos du roi, on pourrait ajouter d'ailleurs que s'il est l'autorité suprême, il porte une responsabilité extrêmement lourde parce qu'il est considéré comme étant le garant de la prospérité de son pays et le protecteur de tous ses sujets. Donc il a droit de vie et de mort sur ses sujets, mais il doit aussi assurer leur bien-être et leur survie dans un climat difficile. Et par exemple, on considère que s'il y a pas assez de pluie, pas assez d'eau, des mauvaises récoltes, c'est parce que le roi a mal gouverné, qu'il a mal régné. Et en tant que tel, il doit donc assumer sa charge. Mais on comprend mieux ce rôle de clé de voûte que je lui attribue souvent au sein du royaume. Tout part du roi et revient au roi. On a un système concentrique au niveau géographique, notamment territorial, on pourrait dire, qui part du palais, qui est dans la capitale. Et à ce propos, le palais dont on parlait tout à l'heure, il est à l'intérieur d'Angkor Thom, la dernière capitale bien connue de la fin du XIIe au Cambodge. Et cette capitale, elle était pleine comme un œuf, pour reprendre les expressions de ceux qui ont fait des fouilles. Donc il y avait un espace extrêmement organisé, presque comme les villes romaines, avec des axes dont parlait Christophe tout à l'heure, les canaux, les petites rivières, etc. Et puis des quartiers, c'était plein d'habitations qui ont toutes disparu. Et de cette capitale, on passe ensuite à l'échelle du royaume. Donc tout ça s'imbrique avec comme support fondamental le roi, sur qui tout repose. Et lui, ses missions essentielles, c'est protection, défense, justice. C'est là qu'il exerce son pouvoir.
Est-ce qu'on a une idée donc de cette concentration de population ? Encore, c'est difficile à dire, hein, parce que on évoquait le fait que tout a disparu. On peut retourner au pays des cigales, Christophe Potier.
Donc, comme je vous le disais, l'étude de l'habitat est assez récente à Angkor. Et donc, bien entendu, il nous manque encore énormément de données pour nous lancer dans la paléodémographie. Ceci étant, les derniers éléments, et notamment la cartographie qu'on a pu développer durant ces 20 dernières années, nous permettent quand même de suggérer des densité de population finalement assez importante, qui vont varier de 15 à 50, voire même peut-être un peu plus d'habitants par hectare. Ce qui, au final, sur une zone qu'on considère, enfin la zone d'étude couvre quasiment 3000 km² dorénavant, alors qu'il n'est pas aménagé dans son intégralité, hein, mais ça peut amener à une population qui dépasserait en tout cas 700 000 personnes, voire 800, 900 000 personnes, suivant les différents modèles qu'on utilise. Alors, je souligne bien sûr que ces estimations se basent encore sur des choses qui doivent être affinées à travers les fouilles, et de nouvelles fouilles d'habitat, etc. Mais c'est un élément quand même qui montre l'ampleur de l'investissement humain dans la région. Et aussi, encore pour finir sur cette partie démographique, toute la difficulté, c'est bien entendu que la cartographie nous donne une vision finalement assez trompeuse, puisque on voit toutes les époques d'un coup sur une carte. Identifier la diachronie à travers cette cartographie est toujours un problème assez compliqué, sachant que, on l'a dit plus haut, les sources sont très limités, et y compris aussi les sources de datation, non seulement pour ces centaines de temples, les milliers de temples en fait qui sont dans la région, et qu'il est très difficile donc de dater, parce que très peu ont des inscriptions, très peu ont des éléments stylistiques qui nous permettent d'affiner une chronologie. Et au-delà de la fondation, de date de fondation de ces établissements, il nous importe aussi de saisir leur durée d'occupation. Et ça, c'est une autre paire de manches, puisque là, on repose beaucoup sur notamment la chronologie des céramiques que l'on peut retrouver, sachant que 95%, pour ne pas dire 99% des artefacts que l'on retrouve en fouille se limitent à de la céramique. Tous les éléments organiques ont complètement disparu, les éléments métalliques, fer, bronze, etc. sont excessivement rares parce que d'abord ils se préservent assez mal et en plus ils sont facilement réutilisables dans le cadre du bronze ou d'autres métaux précieux. Donc la majorité c'est de la céramique. Et ici encore, il faut souligner que malgré les travaux pionniers de Grolier dans les années 60, il faut attendre quasiment les 10 dernières années pour qu'on commence à avoir une typochronologie correcte pour commencer à étudier la céramique et dès lors d'avoir un aperçu des durées d'occupation des sites. Or, on sait clairement que tous ces sites n'étaient pas occupés en même temps.
En toute logique, Christophe Potier souligne l'importance de la céramique avec ici les artefacts et les objets, parce que on parle beaucoup de temples, mais dans ce que vient de dire Christophe Potier, on entend que aussi beaucoup d'éléments manquent d'objets de la vie quotidienne. Qu'est-ce que l'on a sur ce territoire qui nous intéresse aujourd'hui encore dans les musées? Qu'est-ce qu'on peut voir particulièrement?
Dans les musées, on voit, c'est un petit peu comme le site lui-même, on voit surtout ce qui était le plus apparent, donc des sculptures en pierre, des images divines, mais tout de même, les recherches archéologiques, les fouilles récentes, et notamment celles que conduisent nos collègues cambodgiens sur place, dans des chantiers très divers et très nombreux, révèlent quantité de choses. La céramique, bien sûr, qui est un marqueur chronologique essentiel, et puis aussi des éléments métalliques. Certes, ils sont peu nombreux, mais ils sont assez importants, et on peut, comme cela, citer des exemples de sites qui ne sont pas le site d'Angkor, parce qu'il faut bien dire d'ailleurs qu'Angkor, c'était certes le centre du pays Khmer, mais ça n'était qu'un élément parmi d'autres. Il y a eu d'autres grandes cités, d'autres grandes villes, pas aussi développées, mais à l'échelle de l'histoire et du point de vue politique ou religieux, tout aussi importantes qu'Angkor. Quoi qu'il en soit, en citant un exemple particulier qui est celui d'un temple du sud du Cambodge, le Phnom Bayang, qui est une colline sur laquelle il y a un temple très ancien du 7e siècle, des fouilles qui ont été menées par les archéologues de l'École française d'Extrême-Orient en 1936, qui devraient être reprises bien sûr pour développer un peu plus la connaissance, ont tout de même permis de suivre l'évolution du site et surtout d'attester sa vie, son occupation de sa fondation au 7e siècle jusqu'au moins au 11e, 12e siècle. Et probablement au-delà, puisque à un certain moment, ce temple hindou à l'origine a été transformé en monument bouddhique. Il a été réaffecté d'une certaine manière et il est toujours en activité aujourd'hui. Les populations de la région qui entoure cette colline expriment leur dévotion dans ce monument au Bouddha qui est leur qu'ils vénèrent aujourd'hui. Donc il y a vraiment une continuité d'histoire, d'occupation qui apparaît parfois à la faveur de l'importance de tel ou tel lieu et des découvertes qui ont pu être faites par les archéologues et puis surtout de cette vie qui continue de s'y développer encore aujourd'hui.
Bronzes royaux d'Angkor, un art du divin, exposition au musée Guimet à Paris. Et justement, ces bronzes royaux, quels sont-ils? Enfin, d'où viennent-ils?
Alors, les bronzes royaux, ce sont des commandes royales. C'est un titre qui a pour objet faire saillir l'idée que la métallurgie, les artisanats liés au cuivre, liés au métal, ont souvent été associés au roi. C'est le roi qui est d'ailleurs, Edwige le disait, qui est au sommet de tout, qui est vraiment, duquel tout dépend. Et c'est lui qui assurait d'une certaine manière et gérait le devenir de toutes ces traditions artisanales et artistiques par extension. Donc l'exposition qui se tient au musée Guimet en ce moment est une exposition où l'on regroupe des œuvres métalliques, bon, beaucoup de sculptures, mais aussi quantité d'objets, donc des objets rituels, des objets du quotidien, quantité d'éléments qui sont plus, considérés souvent comme mineurs dans les monuments, qui sont des éléments décoratifs, des éléments de structure même parfois. Et puis, dans cette exposition, outre les objets qu'on montre, il y a toute une narration qui se fonde sur les travaux de recherche de nos collègues de l'École française d'Extrême-Orient, notamment Brice Vincent, qui est un des commissaires de cette exposition, pour retracer la vie de cet artisanat du minerai jusqu'à l'objet fini. Donc on a une approche qui est un petit peu différente de l'approche traditionnelle d'une exposition muséale où on montre de grands chefs-d'œuvre. Alors on montre beaucoup de chefs-d'œuvre, mais on montre aussi des objets très beaucoup plus modestes pour retracer l'histoire d'un élément d'ordre social, économique, culturel et artistique qui était très important au Cambodge. Et tout ça se conclut par la mise en valeur, on va dire, du plus grand bronze khmer jamais retrouvé à ce jour au Cambodge ou dans sa périphérie. Une grande sculpture très fragmentaire et qui, compte tenu de son importance, ne peut avoir été réellement qu'une commande royale. Donc on est là devant un cas de figure où, même s'il n'y a pas d'inscription, on sait, alors on peut être démenti dans le futur, mais en tout cas on sait que certainement cette grande image qu'on montre au musée Guimet a été commanditée par un roi.
De bronze et d'or, la Khmer dans tous ses états, c'est un des prochains épisodes du cours de l'histoire, avec dans cet art-là, évidemment, au centre de beaucoup de préoccupations, le roi.
Ah encore, c'était la statue du roi qui devenait le dieu de la capitale, et non le roi lui-même. Mais il était tenu à des devoirs rigoureux envers son image. Devoir de lui bâtir un temple, tandis que le prince devait se contenter d'une demeure modeste, appropriée à sa chair et périssable comme elle. Il devait se contenter d'un palais de bois pendant que son image se prélassait dans un temple de pierre ou de briques. Et puisque dans l'image royale respirait la présence ineffable de Dieu, c'était pour lui servir de sanctuaire que le roi élevait la capitale, ordonner ses avenues, ses étangs, en même temps qu'il faisait construire d'autres temples pour d'autres idoles, images de ses parents, de ses amis, morts ou vivants.
En 1958, Macalipal, de son vrai nom, Nelly Pierrette Guède, qui, poétesse, romancière, porte un regard ici sur la statue, et peut-être même le statut du roi, Edwige Mölzer Onakten. Quel est ce statut évoqué ici? Parce que on entend bien l'idée d'un palais de bois quand les temples sont en pierre. Est-ce que on peut le lire ainsi avec les avancées de la connaissance historique?
Alors, ce qu'on peut dire en ce qui concerne le roi du Cambodge, c'est que il ne faut pas insister sur le caractère divin. Comme je l'ai dit, il n'était pas considéré comme un dieu. Il ne se serait d'ailleurs pas permis de s'identifier à un dieu. En revanche, sa personne est sacrée. Et il a une importance fondamentale au sein de tout un environnement, mais... Il gouverne, il règne avec des ministres, avec des agents administratifs, dont certains sont très importants, qui sont notamment des brahmanes et qui, eux, ont aussi droit à la parole. Donc, en Inde, le roi ne peut pas gouverner sans les brahmanes, ne peut pas gouverner sans son chapelain et son gourou. Le chapelain qui s'occupe de gérer tous les rituels domestiques, parce que le roi, en fait, suit la même journée que le commun des mortels. Il va commencer, il va faire ses offrandes à ses divinités, ensuite il va... évidemment, s'atteler à son travail de roi, mais il a besoin de son chapelain pour les rituels quotidiens qui marquent la journée, qui marquent les mois, qui marquent l'année, parce qu'il y a beaucoup de grandes fêtes. Il a aussi son gourou. Le chapelain, c'est plus un guide spirituel. Le gourou, c'est plus on pourrait dire un premier ministre. C'est par lui que vont passer tous les ordres. Le roi, il a aussi des obligations judiciaires. Certains rois disaient qu'ils étaient tous les jours à la cour de justice. D'autres tenaient audience tous les jours. Donc, c'est un personnage extrêmement important, mais c'est un personnage extrêmement accessible. Dans les inscriptions, bien entendu, il faut faire la part des choses. Les inscriptions vantent, font l'éloge du roi. Donc, elles vont pas dire que c'était un mauvais roi qui s'intéressait pas à ces sujets. Mais on a à plusieurs reprises des mentions de certains rois qui donnent audience tous les jours à leur sujet et qui précisent bien que tout le monde pouvait s'adresser au roi. Quand vous avez l'impression d'avoir été victime d'une injustice dans une cour de justice, vous pouvez, votre ultime recours, c'est le roi. Et c'est sa parole qui est décisionnaire en dernier recours. Mais les rois khmers font preuve de simplicité aussi. On a des représentations très rares, mais sur des bas-reliefs de la fin du XIIe, de scènes de palais qu'on peut interpréter. On voit qu'ils vivent avec, évidemment, des militaires, les femmes, les dignitaires qui les entourent tout le temps, qui sont rassemblés en conseil. Mais quand ils sont représentés habillés de manière relativement simple. Tout le luxe du roi et de l'élite, ce sont les bijoux, les parures qu'ils pouvaient porter. Le roi ne se considère pas comme très différent de ses autres sujets, tout en ayant conscience de sa supériorité. Donc, sur le statut du roi, c'est un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte et qui caractérise un petit peu la royauté khmère aussi, d'une manière plus commune.
Avec la difficulté de synthétiser une royauté sur une période aussi longue, on l'a dit, d'à peu près 800 jusqu'à 1400, avec tout ce que vous nous présentez là, qui... Et voilà pour beaucoup de royautés ailleurs. Hein. On sent beaucoup de similitudes, hein, qu'un souverain vienne, change les gens qui lui plaisent pas, qu'il reste, qu'il soit là à gouverner, qu'il ait des audiences. C'est un schéma ici que l'on retrouve ailleurs. Avec Christophe Potier, ce monde difficile à comprendre, à explorer depuis le début de l'émission, c'est ce va-et-vient entre le monumental et puis le plus concret, entre ces palais et entre les gens, entre l'existence d'un élément architectural et puis sa symbolique et qui est beaucoup plus difficile à cerner. Le travail est encore immense.
Oui, il y a encore énormément de travail sur la planche, d'autant plus que la matérialité de la symbolique n'est pas toujours évidente, même si elle transparaît à travers, et on l'a souligné, la géométrie, l'organisation, la centralité des éléments principaux qui témoignent de la royauté, à travers les temples, palais, etc. C'est ça qui organise complètement et spatialement les cités en coréenne, hein, les cités qui, en tout cas, se superposent et se suivent dans cette région sans quasiment... quelques hiatus, mais vraiment très ponctuels. Mais au-delà, ça montre aussi très clairement la concentration des richesses qui vont avec le souverain et qui évoluent au fil des siècles et qui se reportent dans un certain sens vers les fondations religieuses. Alors, de manière différente suivant les périodes, mais très clairement, les temples et les palais sont des éléments de concentration des richesses que l'on perçoit à travers la qualité des matériaux qui y sont mis en œuvre, la quantité notamment, par exemple, et la qualité des créations, des productions royales. Les fondations de temples royales sont aussi d'une qualité et font appel d'ailleurs à des ouvriers qui très clairement ont une qualification qui va bien au-delà de ceux qu'on va retrouver à l'œuvre sur des petites fondations privées. Donc il y a toute une concentration de richesses derrière cette accumulation de cités que l'on perçoit à travers les métaux, à travers la pierre mise en œuvre. On l'a souligné aussi à travers les chaînes opératoires qui vont chercher des sources, et notamment les minerais, sur des distances parfois donc très longues. Les carrières aussi sont quand même à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Donc il y a une mobilisation aussi de la population pour ces œuvres qui est quand même assez forte. Et on l'a évoqué au début de l'entretien, empire ou royaume. Alors ça dépend bien sûr des critères qu'on veut mettre pour faire le distinguo entre d'un empire, mais si on se base sur quelques critères un peu reconnus, un peu simples, comme tels que l'échelle, la hiérarchisation, la diversité, la monumentalité des traces matérielles ou même l'idéologie du pouvoir, eh bien, très clairement, encore, ce n'est pas qu'un royaume, c'est clairement un empire, et on fait très souvent référence à l'empire khmer, ne serait-ce qu'à travers l'expansion territoriale d'Angkor, qui, à son apogée, va couvrir le sud du Vietnam, le sud du Laos aussi, une grande partie de la Thaïlande, donc s'étend sur bien au-delà des frontières actuelles du Cambodge. La hiérarchisation, on l'a vu à travers différents éléments précédents, l'habitat, les différents bijoux qu'on va retrouver autour des palais, et même d'ailleurs en situation de palais, on va retrouver, pour revenir à la céramique, des céramiques d'importation de qualité vraiment très particulière. Dès le 9e siècle, on commence à avoir des céramiques du Moyen-Orient et des céramiques chinoises. C'est d'ailleurs les premières céramiques d'importation qui apparaissent à ce moment-là. Et même au fur et à mesure du développement et de l'accroissement des importations chinoises au 12e, 13e siècle, eh bien, on continuera à avoir dans le palais des productions vraiment tout à fait exceptionnel, qui ne jurerait pas dans la cour de Pékin. Les traces matérielles, elles sont aussi très évidentes à travers la monumentalité des palais, des temples royaux, à la différence de temples beaucoup plus modestes, j'en ai déjà parlé, dont la plupart a été construit en matériaux périssables et qui se limitaient peut-être juste à une statue et un piédestal.
Avec ici cette chronologie que nous avons évoquée, si difficile à construire, sachant que dès le 6e siècle, on sait qu'il se passe des choses. Il y a cette date autour de 800 où l'on voit la naissance d'une structure autour d'Angkor qui nous conduit jusqu'à quand? Alors, vous avez évoqué, Thierry Zéphir, le 15e siècle, toujours selon notre calendrier. Ça, c'est un sujet classique, mais comment on peut expliquer le déclin d'Angkor?
Bon, c'est sans doute un ensemble de facteurs. Le déclin d'Angkor résulte peut-être, ce sont des études récentes et des recherches récentes qui le montrent, de problèmes climatiques. Il y a eu au 14e des périodes vraiment difficiles de ce point de vue-là. Grosse sécheresse, saison des pluies très marquées, qui ont pu déstabiliser les systèmes de fonctionnement, on va dire, aussi bien de l'urbanisme que de l'agriculture en pays khmer. Il y a eu effectivement des problèmes liés à la montée en puissance de peuples ou de domaines voisins. Alors curieusement, on associe la chute d'Angkor à la prise de la ville par les soldats des armées du royaume d'Ayutthaya. Ayutthaya, c'est une des grandes capitales historiques de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Thaïlande. Et on dit quelquefois, voilà, ce sont les Siamois qui arrivent. Oui, sauf que les gens d'Ayutthaya, c'était des cousins très proches des Khmers, voire des Khmers. Donc, on a simplement une réorientation des pouvoirs, qui fait qu'à un certain moment, voilà, le Cambodge n'est plus prééminent dans ce qu'on appelait autrefois la péninsule indochinoise, et que ce sont effectivement les peuples de l'actuelle Thaïlande, les royaumes de l'actuelle Thaïlande, qui assument ce statut. Et puis, il y a ce changement religieux. Toute l'époque angkorienne, et même en partie l'époque pré-angkorienne, était marquée par des cultes de nature très élitiste. L'hindouisme d'un côté, et le bouddhisme, mais le bouddhisme du grand véhicule de l'autre. Et dans le fond, évidemment, conceptuellement, il y a des grandes différences entre les deux, mais dans le mode de fonctionnement, c'est un petit peu comparable. Et il y a quelque chose de très important qui se passe au XIVe siècle, c'est cette orientation nouvelle de la royauté, de la population, vers le bouddhisme du petit véhicule. Un bouddhisme qui est, entre guillemets, plus humble, qui est plus tourné vers le fait de cultiver personnellement son accès au salut et pas de passer par tout l'appareil extrêmement grandiloquent et très sophistiqué des rituels de cour ou autres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu un changement culturel majeur au Cambodge. Si on doit retenir vraiment, de mon point de vue, en tout cas, une césure dans l'histoire khmer, c'est ce moment-là qui est le moment charnière et qui donc participe, explique ou est advenu au moment où encore commençait à perdre sa prestance, sa puissance et son importance.
Le défi était énorme aujourd'hui. de résumer en une heure cette histoire de l'Empire Khmer. On l'a entendu, Christophe Potier nous l'a dit, Empire c'est viable. Alors merci beaucoup Christophe Potier, merci à vous Thierry Zéphir. Et je rappelle, hein, il y a cette exposition au musée Guimet, Bronzes royaux d'Angkor, un art divin. Et merci Evige Mulzer Onakten avec encore le quotidien du roi. Merci vivement à tous les trois. Prochains épisodes dans le cours de l'histoire du protectorat à l'Indochine française, le Cambodge colonisé.
Si le temps m'en avait été laissé, j'aurais aimé tracer pour vous un tableau de l'histoire de la péninsule indochinoise au XIXe siècle, pour faire mieux comprendre de quelle anarchie permanente, de quel chaos sanglant, l'intervention française a tiré les peuples du Vietnam, du Cambodge et du Laos.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Clémentine Ducasse, Maël Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.